Vous écoutez France Culture.
Et comme chaque vendredi, le monde selon Hubert Védrine. Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
Alors donc,
Il fait beau, pour l'instant,
je ne peux pas vous le cacher. Voilà, le soleil se lève sur la croisette et la douceur est au rendez-vous. La douceur, je ne sais s'il faut employer ce mot, Hubert Védrine, pour parler de ce qui se passe en ce moment dans l'actualité internationale, européenne. Les transactions autour du marché transatlantique, du grand marché, qui sont en cours de négociation. Et puis, dans le même temps, ces mesures protectionnistes que vient de prendre le gouvernement français, notamment sous la houlette de Manuel Valls, mais surtout, on va dire, d'Arnaud Montebourg, en élargissant le décret sur les entreprises stratégiques qui permet à l'État de s'opposer à la prise de contrôle d'une entreprise. On sent que tout cela est sur fond de campagne électorale européenne en vue des scrutins du 22 et 25 mai prochains.
Oui, il y a beaucoup d'éléments intéressants dans l'actualité, ce que vous citez, et puis notamment par rapport à cette campagne. Moi, ce qui me frappe par rapport à cette campagne européenne, c'est que les arguments européistes, comme on dit aujourd'hui, disons pro-européens, sont toujours les mêmes. Et ce sont ceux qui ont à peu près échoué chaque fois. Dans à peu près toutes les élections au Parlement européen. Je rappelle que depuis que l'élection s'est faite au suffrage universel, l'élection de 1979, l'abstention n'a jamais cessé de monter. Au départ, elle était à 39. La dernière fois, elle était à 59. Et on annonce une abstention moyenne en Europe de 60. Peut-être un peu moins, parce qu'il y a un petit peu d'intérêt à travers l'idée, qui est d'ailleurs pas tout à fait fondée dans les traités, que c'est le vote au Parlement qui va désigner automatiquement le président de la Commission. Là, vous savez qu'il y a une divergence d'interprétation. Donc, il y a les campagnes de Schulz, puis Juncker et les autres. Mais on voit, la même campagne mélodramatique. Ça, c'est les arguments du genre « l'Europe, c'est la paix », sous-entendu. Si on a le moins de désaccords, on va revenir à la guerre. Ce qui n'est évidemment pas vrai. L'Europe technocratique, c'est celle qui a financé ceci ou cela, donc vous pouvez être reconnaissant, mais les votes se font jamais sur la base de la reconnaissance, mais sur la base du projet ou des appréhensions. Et puis la campagne méprisante. On dit on manque de pédagogie, comme si les électeurs étaient des arriérés, quoi. Il faut leur faire des cours de rattrapage. Et ça fonctionne jamais, en fait. Regardez, c'est les mêmes arguments que dans les référendums, qui souvent ne marchent pas, en fait. Donc ce qui me frappe, c'est l'incapacité des pro-européens qui partent toujours de sentiments justes, enfin intéressants, positifs, à trouver quelque chose qui permette soit d'ébranler ceux qui veulent voter protestataire, or ceux-là veulent le choquer, donc plus les gens en face sont choqués, plus ils votent protestataire, ou alors de convaincre les sceptiques, le parti majoritaire, donc, de revenir voter. Bon, et alors, dans le débat en même temps, vous avez cité le débat sur le grand marché, vous savez, la grande négociation entre l'Europe et les États-Unis sur un grand marché transatlantique, et qui est présenté comme un épouvantail, notamment par les anti-européens. Alors là, ce qui est frappant, c'est que, regardez, tous les commentaires qui sont faits, ou les articles inquiets ou hostiles, sont fondés sur l'idée qu'on a tout lâché d'avance.
Donc, la bataille est perdue, quoi, au fond.
La bataille est perdue d'avance. Donc, tous les commentaires, c'est comme si les Américains avaient obtenu tout ce qu'ils ont demandé, et que nous, on n'a pas été capable de résister, qu'on n'a obtenu aucune des demande que nous faisons par rapport à l'ouverture, par exemple, des marchés publics aux États-Unis. Donc, on a capitulé d'avance. Donc, c'est un signe supplémentaire, typique, de ce qui est frappant dans cette opinion française aujourd'hui, plus qu'européenne, française, qui est qu'on ne va pas y arriver, c'est trop dur pour nous, voilà, on a capitulé. C'est tout à fait frappant. Alors que c'est une négociation qui n'a pas encore été conclue, qu'on soit vigilant, qu'on demande aux commissaires actuels et puis le futur de rendre compte précisément au Parlement, que les parlements nationaux suivent ça de près, qu'on pose des questions, c'est normal, c'est l'exercice même de la négociation. Si ça se trouve, au bout du compte, il n'y aura pas d'accord, puisque les Européens ne seront pas d'accord pour accepter le compromis présenté. Peut-être pas. Mais les commentaires en France, voilà, ça y est, on a perdu. Le simple fait qu'on négocie, c'est quand même un signe supplémentaire.
Et alors, est-ce qu'on gagne quelque chose
pathétique et infondé.
Est-ce que l'on gagne quelque chose, Hubert Védrine, avec le patriotisme, on va dire, économique d'Arnaud Montebourg?
Moi, je pense que oui. Je pense que oui. D'ailleurs, c'est l'élargissement d'un décret antérieur qui considère qu'il y a des secteurs dits stratégiques dans lesquels le gouvernement peut s'opposer, en tout cas ralentir, compliquer une prise de contrôle d'entreprises françaises dites stratégiques. Mais alors évidemment, là, les libéraux pur sucre trouvent ça effrayant en soi, donc attaquent en soi. Mais ce sont des mécanismes, sous une forme ou sous une autre, qui existent dans tous les grands pays développés. Aux États-Unis, le président des États-Unis peut décider à un moment donné que telle ou telle prise de contrôle étrangère est contraire à l'intérêt national. Mais c'est un concept qui n'existe pas en Europe, que si vous dites ça au Parlement européen, les gens tombent dans le coma.
Ah, vous avez vu que la Commission européenne a réagi immédiatement, hein, tout de même en disant hier, en mettant Paris en garde contre toute tentation protectionniste après la publication de ce fameux décret.
Oui, mais la Commission réagit souvent de façon pavlovienne, automatique, à travers une interprétation qui est la sienne et qui est discutable de tel ou tel principe, par exemple celui de la concurrence et de l'ouverture. Or, il y a des mécanismes aux États-Unis, il y a des mécanismes en Grande-Bretagne, des mécanismes, j'ai cité, aux États-Unis. C'est-à-dire à partir de ça que, moi j'ai écrit il y a longtemps, une formule qui est reprise parfois par d'autres de façon plus politique, en disant attention à ce que l'Europe ne devienne pas l'idiot du village global. Bon. Certains disent, ça y est, elle l'est. Moi, je dis attention à ce qu'elle ne le devienne pas. Donc, moi, ça ne me choque pas du tout. Je pense que c'est bien qu'on dispose d'un mécanisme de ce type. C'est comme le Japon. Regardez, le Japon est en théorie ouvert, en pratique impénétrable. Bon, donc, il faut avoir des mécanismes de ce type. Après, il ne faut pas en faire un usage borné, systématique, mécanique. Mais c'est plutôt intelligent. Et la Commission parle souvent sans réfléchir, comme elle l'avait fait après le vote suisse, par exemple, dans une sorte de déni de démocratie contestable. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne démarche et ça devrait jouer un rôle utile en théorie dans la campagne européenne dont je parle et qui me semble ne pas saisir les sujets.
Et nous aurons l'occasion d'y revenir vraisemblablement. Merci Hubert Védrine. Le Monde selon Hubert Védrine est à retrouver, télécharger, écouter sur franceculture.fr.